comme dans un livre. Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Chapitre 22. Journal de Jonathan Harker. Suite. Après notre expédition à Carfax, dit-il, nous avons peut-être eu raison de décider de ne pas toucher aux caisses qui se trouvaient là. L'eussions-nous fait, le comte aurait deviné notre intention et aurait sans aucun doute pris ses dispositions pour nous empêcher de découvrir les autres. Tandis que maintenant, il ne se doute pas du but auquel nous voulons arriver. Il ignore même, très vraisemblablement, que nous ayons la possibilité de rendre ces repères inefficaces, en sorte qu'ils ne puissent plus s'y réfugier en sûreté. Et nous, nous sommes à présent suffisamment renseignés pour que, après avoir visité la maison de Piccadilly de fond en comble, nous soyons à même de retrouver, en outre, les autres caisses. Cette journée sera donc pour nous très importante. D'elle peut dépendre notre victoire finale. Puisse le soleil qui se lève et voit notre malheur présent nous protéger jusqu'à ce qu'il se couche ce soir. Jusque-là, en effet, le monstre ne peut changer de forme. Il est emprisonné dans son enveloppe terrestre. Il lui est impossible de se volatiliser dans l'air ou de disparaître par quelque fente ou quelque fissure. S'il veut franchir une porte, il devra l'ouvrir comme n'importe quel mortel. C'est pourquoi nous avons la journée entière pour découvrir ses repères et les détruire. De sorte que si même nous ne l'avons pas encore capturé et anéanti ce soir, en tout cas nous l'acculerons en quelque endroit d'où il ne nous échappera plus. Ici, je ne puis plus me taire. L'idée que nous laissions passer des minutes, des secondes dont dépendait le bonheur et la vie de Mina me devenait insupportable. Pendant que nous parlions, nous n'agissions pas. Mais Van Helsing leva la main. Un moment, mon cher Jonathan, dit-il. Dans cette affaire, il nous faut procéder sans hâte si nous voulons arriver promptement à nos fins. Quand le moment d'agir sera là, nous agirons. Selon toute probabilité, songez-y, c'est dans cette maison de Piccadilly que les choses vont s'éclaircir pour nous. Le comte a peut-être acheté plusieurs autres maisons. Il doit donc posséder les actes d'achat de celle-ci, les clés, que sais-je encore. Il doit avoir du papier à écrire, il doit avoir un carnet de chèques. Il faut bien que tout cela soit quelque part. Pourquoi pas dans cette demeure si calme, en plein Londres, où il peut entrer, d'où il peut sortir à l'heure qui lui plaît, par la porte principale ou par une autre, sans que personne le remarque dans la foule toujours nombreuse en cet endroit. Cette maison, nous allons l'explorer. Et quand nous aurons vu ce qu'elle recèle, nous pourrons chasser notre vieux renard jusqu'à son terrier. Qu'en dites-vous ? Alors, partons tout de suite, m'écriai-je. Encore une fois, nous perdons un temps précieux. Et comment entrerons-nous dans cette maison de Piccadilly ? Me demanda le professeur, très calme et sans bouger. Peu importe comment, criai-je encore. Nous entrerons de force s'il le faut. Et la police ? Elle ne sera pas là, n'est-ce pas ? Et elle ne dira rien. Je restai interdit. Puis je pensais tout à coup que s'il désirait ne pas aller là-bas sur l'heure, il avait ses raisons. Aussi répondis-je, aussi paisiblement que cela me fut possible. En tout cas, n'attendez pas plus qu'il n'est nécessaire. Vous savez, j'en suis certain, quel supplice j'endure. Oui, mon enfant, je le sais, oh combien. Et je voudrais ne pas ajouter à votre terrible angoisse. Mais réfléchissez. Que pouvons-nous faire aussi longtemps que les rues ne sont pas remplies de monde ? Alors oui, il sera temps d'agir. Moi-même, j'y ai beaucoup pensé, croyez-le, et il me semble que le moyen le plus simple est le meilleur de tous. Nous voulons entrer dans cette maison, mais nous n'avons pas les clés. C'est là le problème, n'est-ce pas ? J'acquiesçai d'un signe de tête. Bon, supposez maintenant que vous soyez le propriétaire de cette maison et que pourtant vous ne les ayez pas, ces clés. Que feriez-vous ? J'irai chercher un honnête serrurier et je lui ferai crocheter la serrure. Et la police n'interviendrait pas ? Non. Si elle s'aperçoit que l'homme travaille à la demande du propriétaire lui-même. Ainsi donc, continua-t-il en me regardant dans les yeux, les seules choses dont on puisse douter, c'est que l'employeur soit vraiment le propriétaire et que vos policiers ne soient pas trop crédules. Vos policiers sont assurément des hommes zélés et habiles. Oh, si habile à deviner tout ce qui se passe dans les cœurs, qu'il s'embrouille parfois. Non, non, mon cher Jonathan. Vous pouvez aller crocheter les serrures de 100 maisons dans votre ville de Londres ou dans n'importe quelle ville du monde. Si vous le faites convenablement et au moment opportun, vous n'aurez aucun ennui. Écoutez l'histoire que j'ai lue un jour. Un monsieur possédait à Londres une magnifique demeure. Cet été-là, partant pour la Suisse où il devait passer plusieurs mois, il la ferma complètement. Il ne se passa pas longtemps avant qu'un cambrioleur s'y introduisît par une fenêtre dont il brisa les vitres et qui donnait sur le jardin. Il alla ouvrir toutes les fenêtres de la façade et ressortit par la porte principale, sous les yeux même des policiers. Bientôt, il fit procéder à une vente publique du mobilier de la maison, ce qu'il annonça par une immense affiche collée sur le mur. Et aujourd'hui, il fit vendre par un commissaire-priseur réputé tout ce que possédait le monsieur qui passait ses vacances en Suisse. Puis ce fut la maison elle-même qu'il vendit à un entrepreneur de bâtiment, s'arrangeant avec lui pour qu'il la démolît avant une certaine date. Et la police et vos autres autorités municipales lui facilitèrent les choses. Et lorsque le vrai propriétaire revint de Suisse, il trouva un grand trou au lieu même où s'était élevée sa maison. Mais tout s'était fait dans les règles, et ce sera dans les règles également que se passera notre affaire. Nous n'allons pas nous rendre là-bas de trop bonne heure, afin de ne pas permettre aux agents de police, qui n'auraient pas alors grand-chose à penser, de juger notre présence insolite. Mais seulement après 10 heures, quand au milieu de la foule, on nous prendra pour les propriétaires de la maison. Évidemment, il avait raison, et le visage de Mina elle-même s'éclaira un peu. Tous, nous éprouvions un sentiment d'espoir en écoutant la sage explication de Van Helsing. Une fois dans la maison, reprit-il, nous trouverons peut-être d'autres indices. En tout cas, certains d'entre nous pourront rester là pendant que les autres iront à la recherche des caisses qui manquent encore, à Bermondsey et à Mile End. « Je pourrais vous être utile là-bas, » déclara vivement Lord Godalming en se levant. « Je vais télégraphier à mes gens de préparer voitures et chevaux. »« C'est une grande idée, » s'écria Quincy. « Mais ne craignez-vous pas, mon vieil Hart, que vos beaux équipages avec leur écusson, en passant dans les chemins de Walworth ou de Mile End, n'attirent l'attention plus qu'il n'est souhaitable ?» Il me semble que nous devrions plutôt prendre un fiacre et en descendre à quelque distance de l'endroit où nous voulons aller. « Comme vous êtes intelligent, Quincy, » dit le professeur, « il est vrai que dans ce que nous entreprenons, moins nous serons vus, mieux cela vaudra. » Mina, pour toute chose, montrait un intérêt croissant et je me réjouissais de constater que, par là même, elle oubliait momentanément sa terrible nuit. Son visage était pâle, très pâle, presque blême, et si aminci que les lèvres semblaient étirées, montrant davantage les dents. Je n'en ai encore rien dit, mais mon sang s'est glacé dans mes veines à la pensée de ce qui était arrivé à la pauvre Lucie après que le comte lui eut ainsi sucé le sang. Pourtant, chez Mina, on a nullement l'impression que les dents deviennent plus pointues. Mais peu d'heures se sont écoulées depuis l'horrible visite, et hélas, on peut encore redouter le pire. Nous décidâmes qu'avant de partir pour Piccadilly, nous devions détruire le repère du comte qui était le plus proche. Et au cas où il s'en apercevrait tout de suite, nous aurions encore l'avantage sur lui pour poursuivre notre tâche, et sa présence sous une forme purement physique pendant les heures où il ne jouissait pas de son fantastique pouvoir nous fournirait peut-être de nouvelles indications. Le professeur proposa que, après être allés à Carfax, nous nous rendions tous à la maison de Piccadilly. Les deux médecins et moi-même y resterions, tandis que Lord Godalming et Quincy irait détruire les repères de Walworth et de Mile End. Il était possible, sinon vraisemblable, insista le professeur, que le comte fît une apparition à Piccadilly au cours de la journée, et s'il en était ainsi, nous aurions dès lors à lui tenir tête. De toute façon, nous serions ensemble pour le poursuivre. En ce qui me concernait, je fis une objection à ce plan. Je voulais, dis-je, rester auprès de Mina pour la protéger. Mais Mina ne voulut rien entendre. Elle déclara que je serais peut-être utile pour trancher l'une ou l'autre question de droit, que dans les papiers du comte, certains points seraient sans doute intelligibles à moi seul, qui avais connu le personnage chez lui en Transylvanie, et que, dans tous les cas, il nous fallait être aussi nombreux que possible pour affronter la force extraordinaire du comte. Elle tint bon, et je finis par céder. « Que vous travailliez tous ensemble, dit-elle, voilà encore pour moi une raison d'espérer. Quant à moi, je ne crains rien. L'épreuve la plus terrible est passée. Dans tout ce qui pourra arriver désormais, il y aura un peu d'espoir et de réconfort. Allez, mon chéri, si telle est la volonté de Dieu, il me protégera aussi bien lorsque je serai seul que lorsque l'un de vous est près de moi. Alors, au nom de Dieu, m'écriai-je, partons immédiatement. Le comte peut arriver à Piccadilly plus tôt que nous ne le pensons. Mais non, dit Van Helsing avec un geste de la main, comme s'il voulait apaiser mon impatience. Comment le savez-vous ? Oubliez-vous, me demanda-t-il, non sans qu'un sourire fugitif passât sur son visage, que cette nuit il a fait un festin et qu'il dormira tard aujourd'hui. L'oublier. Aurais-je pu l'oublier ? L'oublierai-je jamais ? Aucun de nous pourra-t-il jamais oublier pareille horreur ? Mina s'efforça de rester calme, mais sa douleur se réveilla et elle se cacha le visage entre les mains tandis qu'elle gémissait et tremblait de nouveau, de la tête aux pieds. Van Helsing, de toute évidence, n'avait pas voulu rouvrir sa blessure. À un moment, il n'avait pu penser au rôle involontaire qu'elle tenait dans toute cette affaire, mais simplement au meilleur moyen d'arriver à ses fins. Quand il se rendit compte de ce qu'il venait de dire, il en fut lui-même épouvanté. « Oh, Madame Mina, chère, chère Madame Mina, » fit-il, « pardonnez-moi. Hélas, moi qui vous admire, qui vous aime tant, ai-je pu aussi être étourdi ? Mais vous oublierez, n'est-ce pas ?» Tout en parlant, il s'était penché vers elle. Elle lui prit la main et, le regardant à travers ses larmes, lui répondit « Non, je n'oublierai pas. Au contraire, il faut que je me souvienne. Et le souvenir que je garderai de vous sera si doux qu'il m'aidera à ne pas perdre l'autre. Maintenant, vous allez bientôt partir. Le petit déjeuner est prêt. Nous devons tous y faire honneur, car tous nous avons besoin de force. » Ce petit déjeuner nous sembla un repas assez étrange. Nous voulions être gais, nous encourager les uns les autres. Et c'était encore Mina qui montrait le plus d'entrain. Finalement, Van Helsing se leva et déclara « Mes enfants, l'heure décisive approche. Sommes-nous tous armés comme la nuit où nous avons visité le premier repère de notre ennemi ? Armés pour résister à une attaque aussi bien spirituelle que physique ?» Nous le rassurâmes sur ce point. « Parfait. En tout cas, Madame Mina, vous êtes à l'abri de tout danger jusqu'à ce que le soleil se couche. Et d'ici là, nous serons revenus si... Mais oui, nous reviendrons. Seulement, vous aussi, malgré tout, il faut que vous puissiez arrêter l'ennemi s'il cherchait de nouveau à vous nuire. Depuis que vous avez quitté votre chambre, je suis allée y mettre certaines choses, vous savez tous lesquelles, qui l'empêcheront d'entrer. Et dès à présent, moi-même, je touche le front de ce morceau de la Sainte Hostie. Au nom du Père et du Fils et du... » Nous entendîmes un cri épouvantable. L'hostie avait brûlé le front de Mina, comme lui fait un morceau de métal chauffé à blanc. Ma pauvre chérie avait pleinement compris ce que cela signifiait. Aussi vite qu'elle en avait ressenti la douleur, et son cri était l'expression de la détresse infinie où elle se sentait sombrer. Il résonnait encore à nos oreilles qu'elle se jetait à genoux et gémissait, tout en ramenant sa belle chevelure sur son visage, comme le lépreux s'était voilé de son manteau. « Impur, je suis impur. Le Dieu Tout-Puissant lui-même fuit ma chair maudite. Jusqu'au jugement dernier, je porterai sur mon front ce stigmate de ma honte. » Tous, ils la regardaient, interdits. Pour moi, je m'étais jeté à côté d'elle, en proie à un affreux désespoir, et passant mes bras autour de sa taille, je la serrais étroitement contre moi. Pendant quelques instants, nos cœurs gonflés de chagrin battirent au même rythme, tandis que nos amis détournaient la tête et pleuraient en silence. Puis Van Helsing s'approcha de nous et dit d'un ton si grave que je ne pus m'empêcher de penser qu'il parlait comme s'il était inspiré. « Il se peut, en effet, que vous ayez apporté cette marque jusqu'à ce que Dieu, au jour du jugement dernier, décide que le temps est venu pour lui de remettre tous les péchés que ses enfants auront commis sur la terre. Oh, très chère Madame Mina, puissions-nous, nous qui vous aimons, être là pour voir la marque rouge, ce signe qui montre que Dieu sait ce qui vous est arrivé, disparaître de votre front qui redeviendra alors aussi pur que votre cœur. Car, n'en doutons pas, cette marque s'effacera quand il plaira à Dieu de nous délivrer du lourd fardeau qui pèse sur nous. Jusqu'alors, il nous faut porter notre croix, comme son Fils a porté la sienne, pour obéir à la volonté du Père. Peut-être sommes-nous les instruments de sa volonté, et devons-nous monter jusqu'à lui, comme l'autre, mais dans la honte, couvert de sang et de larmes, rempli de doutes et de craintes, ce qui fait toute la différence entre Dieu et l'homme. Ces paroles nous aidèrent à nous résigner. Au-delà de la résignation, l'espoir était permis. Mina et moi le sentîmes tous les deux, et en même temps, nous saisîmes chacun une main du professeur et nous nous penchâmes pour la baiser. Alors, tous, nous nous agenouillâmes pour jurer de rester unis, fidèles les uns aux autres. Nous, les hommes, nous fîmes le serment de rendre paix et bonheur à celle que, chacun à notre façon, nous aimions, tout en priant Dieu de nous assister dans notre tâche. Il était temps de partir. Je dis adieu à Mina. Et cet instant, ni elle ni moi, nous l'oublierons de notre vie. Si jamais nous nous apercevons que Mina risque de devenir un vampire, ma décision est prise. Elle n'entrera pas seule dans cette terrible et mystérieuse condition. Je suppose que c'est ainsi que jadis un seul vampire en suscitait plusieurs. De même que leur corps hideux ne trouvait de repos que dans une terre sacrée, de même ils se servaient de l'amour le plus pur pour grossir leur sinistre rang. Nous n'eûmes aucune difficulté à entrer à Carfax. Nous y trouvâmes tout exactement dans le même état que lors de notre première visite. Nous ne découvrîmes aucun papier, absolument rien qui pût être l'indice d'une présence quelconque. Dans la vieille chapelle, les grandes caisses ne paraissaient pas avoir été déplacées d'un pouce depuis que nous les avions vues. « Mes amis, dit Van Helsing, nous avons ici un premier devoir à remplir. Nous allons rendre inefficace la terre que contiennent ces coffres, cette terre sanctifiée par de pieuses mémoires et que le monstre a fait venir d'un pays lointain pour pouvoir s'y réfugier. Cette terre, il l'a choisie précisément parce qu'elle était sanctifiée. De sorte que c'est en nous servant de son arme à lui que nous lui infligerons sa défaite. Cette terre était consacrée à l'homme, maintenant nous la consacrons à Dieu. » Tout en parlant, il avait tiré de son sac un tournevis et une clé universelle, et très vite, il fit sauter le couvercle d'une des caisses. La terre dégageait une odeur de moisi. Mais plus que par cette odeur, nous avions l'attention attirée par ce que faisait le professeur. Il avait pris un morceau de la Sainte Hostie, il le posa respectueusement sur la terre, puis il abaissa le couvercle, et nous l'aidâmes à le visser à nouveau. Nous ouvrîmes et refermâmes toutes les caisses, l'une après l'autre, les laissant apparemment telles que nous les avions trouvées. Seulement, dans chacune d'elles, il y avait à présent un morceau de la Sainte Hostie. La porte de la maison refermée derrière nous, le professeur s'écria « Voilà qui est fait !» Si nous réussissons de cette façon en ce qui concerne les autres coffres, le soleil, quand il se couchera ce soir, pourra éclairer d'une dernière lueur le front blanc et immaculé de Madame Mina. En redescendant l'allée pour nous rendre à la gare, où nous devions prendre le train, nous passions devant l'établissement. Je regardais évidemment en direction de notre fenêtre, et j'y vis Mina. J'agitai la main et lui fis comprendre que nous étions très satisfaits de notre travail à Carfax. À son tour, d'un signe, elle m'apprit qu'elle avait saisi le sens de mon geste. Elle agita la main longtemps encore, puis, au fur et à mesure que je m'éloignais, sa silhouette s'estompa, et enfin je ne la vis plus du tout. C'est le cœur gros que nous atteignîmes le quai de la gare, à l'instant même où le train allait partir. Et c'est dans le train que j'ai écrit ces pages. Thank you. Piccadilly, midi et demi. Nous allions arriver à Fenchurch Street quand Lord Godalming me dit « Nous irons chercher le serrurier, Quincy et moi. Mieux vaut ne pas nous accompagner, je pense, au cas où surgiraient quelques difficultés. Car les circonstances sont telles qu'il nous faudra peut-être, malgré tout, forcer la porte de cette maison. En tant que solliciteur, il est sans doute préférable que vous ne vous en mêliez pas. » Je voulus protester, mais il reprenait déjà. « En outre, moins nombreux nous serons, moins on nous remarquera. Mon titre impressionnera le serrurier, comme il impressionnera les agents, s'il en vient. Allez plutôt avec John et le professeur nous attendre dans Green Park, d'où vous pourrez voir la maison. Quand la porte sera ouverte et le serrurier parti, vous viendrez tous les trois nous rejoindre. Nous vous guetterons et nous vous ferons entrer. » « Excellente idée, » approuva Van Helsing. Et nous nous séparâmes là-dessus, Godalming et Maurice sautant dans un fiacre et nous dans un autre. Au coin d'Arlington Street, nous descendîmes de voiture et allâmes nous promener dans Green Park. Je sentis mon cœur battre très fort lorsque j'aperçus la maison en laquelle nous mettions tant d'espoir et qui se dressait, abandonnée, à son silence sinistre, entre d'autres demeures gaies et animées. Nous nous assîmes sur un banc, d'où nous ne la perdions pas de vue, et c'est en fumant des cigarettes comme de simples flâneurs que nous attendîmes l'arrivée des deux autres. Chaque minute nous semblait une éternité. Finalement, nous vîmes une voiture s'arrêter devant la maison. Lord Godalming et Maurice en descendirent avec une parfaite nonchalance, puis du siège un ouvrier trapu portant des outils. Maurice paya le cocher, qui toucha de la main sa casquette et repartit, tandis que Godalming et l'ouvrier montaient les marches du perron. Lord Godalming montra le travail qu'il désirait voir accomplir, et l'autre commença par ôter lentement sa veste qu'il pendit à la balustrade, tout en adressant quelques mots à un agent de police qui passait. Ce dernier lui répondit, et notre homme se mit à genoux, choisit parmi tous ses outils ce qu'il lui fallait, et les disposa avec ordre à côté de lui. Puis il se releva, regarda par le trou de la serrure, souffla dedans, et, se tournant vers Lord Godalming et Maurice, fit une remarque. Lord Godalming sourit, et l'ouvrier prit un énorme trousseau de clés. Il essaya une de ses clés dans la serrure, puis une autre, puis encore une autre. Il donna alors un léger coup d'épaule dans la porte qui s'ouvrit aussitôt, et nous les vîmes entrer tous les trois dans le corridor. Nous restions assis, immobiles. Je fumais sans arrêt, tandis que Van Helsing avait laissé éteindre son cigare. Il nous fallait attendre avec patience. L'ouvrier sortit enfin et reprit son sac d'outils. Puis, tenant avec son genou la porte entrouverte, il introduisit une clé dans la serrure, la retira et l'attendit enfin à Lord Godalming, qui lui mit dans la main quelque argent. L'homme esquissa un geste de salut, renfila sa veste, ramassa ses outils et s'éloigna. Personne ne s'était avisé de quoi que ce fût. Lorsque l'homme fut hors de vue, nous sortîmes des jardins, traversâmes la rue et allâmes frapper à la porte. Quincy Maurice vint immédiatement nous ouvrir. À côté de lui, Lord Godalming allumait un cigare. « Cette maison sent terriblement mauvais, » nous dit ce dernier, comme nous entrions. En effet, cela sentait terriblement mauvais, l'odeur même de la chapelle de Carfax. Et notre première expérience aidant, nous ne doutions plus que nous ne fussions dans une des demeures du comte. Nous nous mîmes à explorer une pièce après l'autre, restant tous ensemble en cas d'attaque, puisque le comte aussi pouvait se trouver dans la maison. Dans la salle à manger, au bout du corridor, nous vîmes 8 caisses, alors que nous en recherchions 9. Nous ouvrîmes les volets de la fenêtre qui donnait sur une cour étroite, pavée, au fond de laquelle des communs, les écuries, n'avaient, eux, aucune fenêtre, de sorte que nous ne risquions pas d'être vus. Sans perdre un instant, en nous servant des outils que nous avions apportés, nous ouvrîmes chacune des caisses pour y déposer, comme nous l'avions fait à Carfax, un morceau de l'hostie. De toute évidence, le comte n'était pas dans la maison à ce moment-là, et nous poursuivîmes nos recherches. Sûrs de n'avoir négligé aucun recoin de la maison de la cave au grenier, nous en vîmes à la conclusion que tout ce qui appartenait au comte se trouvait dans la salle à manger. Nous y fûmes à nouveau pour procéder à un examen détaillé de chaque objet. Ils étaient tous disposés sur la grande table, dans une sorte de désordre étudié. Il y avait les actes notariés de l'achat de la maison de Piccadilly, ainsi que ceux des maisons de Mile End et de Bermondsey, du papier à lettres, des enveloppes, des plumes, de l'encre. Un mince papier d'emballage préservait le tout de la poussière. Il y avait aussi une brosse à habits, une brosse à cheveux, un peigne, une cruche et une cuvette, celle-ci remplie d'eau sale et rougie, comme si on avait versé du sang. Enfin, des clés de toutes sortes et de toutes dimensions qui étaient probablement celles des autres maisons. Dès que nous eûmes examiné ces clés, Lord Godalming et Quincy Morris notèrent les adresses exactes des différentes maisons à Mile End et à Bermondsey, et, munis de ces clés, partirent pour aller achever là-bas l'œuvre de destruction. Et maintenant, nous attendons leur retour ou l'arrivée du comte.